Oui, mais mes chers collègues, le projet de découpage cantonal qui nous a été présenté il y a quelques instants par Monsieur le Préfet et qui fait actuellement l'objet de ce débat qui sera sanctionné par un vote n'est que le dernier avatar d'une réflexion engagée dans notre pays autour du millefeuille administratif depuis une dizaine d'années. Alors, pendant ces dix années, ce débat a été émaillé par toute une série de productions, de rapports, de mémoires me reviennent ces rapports, le rapport Pévéron, le rapport Attali, le rapport Balladur. Il convient également de citer, de ne pas les oublier, les productions des assemblées, le Sénat, l'Assemblée nationale, qui également ont réfléchi, pour ce qui les concerne, sur les moyens de parvenir à dégraisser ce mammouth du millefeuille administratif. Bref, pendant des années, on a parlé, on a fait des comités, des réunions, on a beaucoup parlé et on n'a jamais agi. Pourtant, chacun connaissait l'urgence et la nécessité de procéder à des réformes fondamentales. Et néanmoins, il y a eu quand même, à partir de 2010, il y a eu deux étapes importantes et deux lois sont venues successivement, l'une annulant d'ailleurs ce que l'autre avait mis en disposition. Eh bien, deux lois méritent d'être citées pour comprendre dans quelle situation nous nous trouvons, après des années donc, de discussions, de paroles, de palabres. La première loi, c'était celle de décembre 2010, qui est à mettre à l'actif de l'ancien président de la République, et bien évidemment, lorsque l'on fait le bilan d'un quinquennat, tout n'est pas positif, mais je considère que cette loi de décembre 2010 a été un acte fondateur extrêmement positif, parce qu'il prévoyait, si l'on parle de dégraisser le millefeuille administratif, c'est pourquoi ? Eh bien, c'est pour diminuer la dépense publique, parce que si on ne diminue pas ce millefeuille administratif, on n'arrivera jamais, c'est pas le seul volet, mais on n'arrivera jamais, s'agissant du volet institutionnel, à diminuer la dépense publique. Eh bien, cette loi de décembre 2010 prévoyait la création d'un nouvel élu, qui était un élu hybride entre le Conseil général et le Conseil régional, qui s'appelait le conseiller territorial. Et l'intérêt de la création de cet élu hybride, le conseiller territorial, c'est qu'il permettait de diviser par deux le nombre d'élus. Alors j'ai arrondi les chiffres à l'entier le plus voisin. Il y a dans ce pays 4000 conseillers généraux et 2000 conseillers régionaux. Ça fait 6000 élus de ces deux collectivités. Eh bien, le conseiller territorial permettait, à l'issue de l'application de cette loi, il ne subsisterait plus que 3000 conseillers territoriaux. 6000 avant, 3000 après, ça génère, on l'admet immédiatement au niveau des indemnités de fonction, des frais de déplacement, etc. Ça génère des économies extrêmement importantes. Et donc ce conseiller territorial est passé à la trappe. Et puis il y avait une deuxième disposition qui participe aussi à l'économie générale et à la diminution de la dépense publique. C'était très important de mon point de vue. C'était l'abolition de la clause de compétence générale. La clause de compétence générale qui permet à tout le monde de faire tout et n'importe quoi. Et, par exemple, ici, périodiquement, se réunit ce que l'on a baptisé le comité des financeurs. Le comité des financeurs, la salle est trop petite pour accueillir tout le monde, d'ailleurs. Il y a les représentants de l'État, il y a les représentants de la région, il y a les représentants du Conseil général, bien sûr, il y a les représentants des pays, des intercommunalités. Bref, et on se réunit pourquoi ? Souvent pour débattre de l'attribution d'une subvention de 10 000 euros, 20 000 euros, 15 000 euros, bref. Vous vous rendez compte de toute l'énergie mobilisée pour des queues de cerises. Eh bien, c'est le système dans lequel nous vivons. Et malheureusement, cette abolition de la clause de compétence générale, également, comme le conseiller territorial, est passée à la trappe. Parce que malheureusement, et hélas pour notre pays, après cette loi du 15 décembre 2010, une autre loi est intervenue au mois de mai 2013, qui annulait les bonnes dispositions de la loi précédente, puisque le conseiller territorial passe à la trappe, la clause de compétence générale est rétablie pour toutes les collectivités, et surtout, c'est là vraiment le summum des anomalies, on assiste à la création de ce binôme qui est qui résulte d'un concept absolument ubuesque qui est apparu dans l'esprit des sénateurs socialistes et qui est un système qui n'existe nulle part ailleurs au monde. Alors certes, même la loi précédente de décembre 2010 stipulait et reconnaissait qu'il fallait, on ne pouvait pas rester avec une carte cantonale de 1809. Et il y avait des évolutions de démographie. Et pour les Pyrénées, certes, nos collègues socialistes ont pris la comparaison entre le plus petit, le canton de M. Pigueux, et le plus gros, pour dire que c'était un peu plus de 10, de 1 à 10 ici. Et les différences de population de 1 à 40 au niveau national. Mais il y avait donc une nécessité qui était admise par la précédente loi de revoir la carte communale, mais avec beaucoup moins de brutalité et avec des critères beaucoup plus souples que la loi actuelle ne dispose. Ce qui fait que, avec 17 cantons, eh bien, nous allons nous retrouver finalement avec 34 conseillers généraux comme vous le connaissez. Alors, les questions que l'on doit se poser finalement, c'est les questions essentielles. Est-ce que le vote de cette loi voulue par les socialistes au mois de mai 2013 génère quelques simplifications dans le millefeuille administratif? Absolument pas, puisque exit le conseiller territorial, exit la synthèse entre la région et le département, et on reste avec les 6000 conseillers généraux et conseillers régionaux. Est-ce que cette loi de mai 2013 va générer des économies? Est-ce que la dépense publique va diminuer? Bien sûr que non, puisqu'on va rester également avec autant d'élus, et ça générera probablement quelques dépenses d'argent public complémentaires. Et puis, il y a le troisième élément, et ça a déjà été évoqué au niveau de la réunion privée que nous avons eue il y a quelques instants, au niveau de l'égalité des citoyens. Mais de quelle égalité parlons-nous? Parce que l'égalité, de mon point de vue, ça ne saurait se résumer essentiellement et exclusivement par une unité démographique. Moi, ce n'est pas la seule égalité qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'égalité des citoyens électeurs. Des citoyens électeurs. Et de ce point de vue-là, mon insatisfaction est totale. J'ai indiqué lors d'une précédente réunion que notre Assemblée était une anomalie démocratique, comme le Sénat est une anomalie démocratique. Pourquoi c'est une anomalie démocratique, la situation actuelle? Parce que dans cette Assemblée, il y a 95% d'élus qui sont des élus de gauche, et puis nous ne sommes que deux élus d'entente républicaine. Et pourtant, au niveau de l'électorat de la société Bigourdan, il n'y a pas 95% de Bigourdan qui votent radical de gauche ou socialiste. Il y a aussi l'électorat de droite. Et même dans les périodes d'étillage, je m'en réfère aux dernières élections législatives, par exemple, que ce soit dans la première ou dans la deuxième circonscription, l'électorat de centre-droit et de droite, il pèse plus du tiers de l'électorat. Donc nous sommes au sein d'une anomalie démocratique, puisque à cet égard, l'égalité des citoyens au niveau des électeurs n'est pas non plus respectée. Alors pour toutes, comme les réponses aux questions que je vous pose sont toutes négatives, bien sûr nous entrerons dans les détails tout à l'heure pour apporter ici ou là des modifications de détails, mais je souhaitais demeurer sur le terrain purement politique et strictement politique, et ce que je viens de rappeler fait que bien évidemment nous voterons contre le projet qui nous est présenté.